Bonjour Nouvelle Vie, quelle joie pour moi d'être avec vous. Je remercie Pasteur Claude de l'opportunité de pouvoir vous apporter un message dans la série « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle ». Et aujourd'hui, j'aimerais aborder l'appel au pardon. Vous savez, quelqu'un a déjà dit « L'erreur est humaine, mais le pardon est divin ». Car humainement parlant, le pardon, ce n'est pas la première réaction qui vient dans nos cœurs, dans notre âme, lorsqu'on vit une injustice, lorsqu'on vit une souffrance, lorsqu'on nous fait mal ou on nous fait quelque chose. La réaction humaine, ce n'est pas d'aller vers le pardon, c'est souvent d'aller vers la vengeance. Parce qu'il y a la loi dans le cœur de l'homme qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». C'est la loi qui nous habite en tant qu'être humain. De se tourner vers la vengeance pour corriger une injustice que j'ai subie. Certains ont voulu augmenter, avoir une certaine hauteur morale dans le sujet du pardon. Et le philosophe Emmanuel Kant a écrit, il a suggéré, « Une personne devrait être pardonnée seulement si elle le mérite. » Alors, il y a quand même le côté de mériter le pardon. Mais Jésus, lui, nous lance un appel à une autre loi, une loi divine. Et le texte de base ce matin, c'est Marc chapitre 11, le verset 25, et c'est écrit ceci. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, » c'est Jésus qui parle, « si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Jésus nous appelle à une loi plus élevée que la loi humaine de la vengeance. Il nous appelle au pardon. Le pardon pour soi-même, le pardon pour son prochain. Et quand je pense au pardon que j'ai reçu à l'œuvre de la croix à Jésus, lorsque je regarde Jésus à la croix pour mon pardon, et que j'entends Jésus dire, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je suis confronté à la demande de Jésus aussi de pardonner, mais c'est là que je vais y trouver la force de pardonner mon prochain. C'est là que je vais trouver l'inspiration, mais plus qu'une inspiration, plus qu'un exemple, une puissance, une force pour pouvoir libérer celui ou celle qui m'a blessé. Pourquoi est-ce que je devrais pardonner? Shakespeare a écrit dans « Marchand de Venise » « Comment peux-tu espérer la miséricorde, le pardon, si tu n'en donnes pas? » George Herbert, qui était un poète chrétien et qui était un pasteur au 17e siècle, a écrit ceci. « Celui qui ne peut pardonner son prochain détruit les ponts sur lesquels il aura lui-même besoin de traverser. » Jésus le dit ainsi dans le chapitre 6 de l'Évangile de Luc, alors qu'il est sur le sermon sur la montagne. Il dit « Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. » En d'autres mots, ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que Jésus nous enseigne, c'est que le pardon produit le pardon. Le produit embarque dans le cycle du pardon, de la miséricorde. Et le pardon, c'est une puissance qui libère l'être humain. Lewis Smith, qui est un psychologue chrétien, a écrit ceci. « Pardonner, c'est de libérer un prisonnier et de découvrir que ce prisonnier était nous-mêmes. » C'est ça, pardonner. C'est de libérer un prisonnier, mais de réaliser que c'est moi qui étais prisonnier. Et ce matin, j'aimerais donc regarder à comment pardonner. Mais juste avant, j'ai juste quelques petites notes pour, avant d'aller dans le centre, dans le cœur du message. Dans le mot « pardonner », premièrement, c'est important de réaliser qu'il y a le mot « donner ». Le pardon, c'est un don de soi. Je t'offre quelque chose, je te donne quelque chose. Et c'est un don envers son prochain. Donc, ça dépasse être mérité et ça dépasse aussi d'être exigé. Je ne peux exiger que quelqu'un me demande pardon. Je peux offrir mon pardon, mais je ne peux l'exiger de mon prochain. Deuxième note, le pardon peut être aussi un processus. Trop souvent, on banalise dans les cercles chrétiens. Bien souvent, on va banaliser. Tu as juste à pardonner, demande pardon, puis on tourne la page. Non, le vrai pardon, c'est quelque chose qui nous amène à aller en profondeur, autant l'offensé que l'offenseur. On va le regarder dans quelques instants. Mais de réaliser là, que ce n'est pas banal, ce n'est pas en surface le pardon, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait. c'est une réflexion, c'est un processus, c'est un travail intérieur qui nous amène à une conviction ou qui nous amène à un relâchement de pardonner son prochain. Et la troisième, c'est, étant donné que c'est un travail en profondeur, je vais avoir souvent besoin de l'aide de Dieu pour marcher selon la loi divine du pardon. Humainement, je ne pourrai y arriver parce que la loi humaine, œil pour œil, dent pour dent, va vouloir se manifester. La seule façon que je peux la remplacer, c'est avec l'aide de Dieu, qu'il me donne cette aide pour pouvoir pardonner celui qui m'a offensé. Alors, comment on peut pardonner? J'aimerais vous proposer quatre étapes. Quatre étapes simples, mais en même temps qui vont nous amener à aller en profondeur. La première étape, c'est de valoriser mon prochain. Dans le livre de la Genèse, au verset 27, dans le premier livre, c'est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » L'être humain a le droit d'être valorisé, d'avoir une grande valeur, pour le simple fait qu'il est un humain. Peu importe sa couleur de peau, peu importe sa race, peu importe sa culture, peu importe sa langue, peu importe son genre, peu importe son style de vie, homme ou femme, peu importe. L'être humain a une grande valeur dans le fait que tout être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'être humain et nous sommes créés à son image. Et donc, tout être humain mérite d'être valorisé. Ça l'amène au respect d'autrui, d'avoir un respect pour son prochain. Mais aussi, lorsqu'on est forcé d'admettre que lorsqu'on regarde qu'on a été créé à l'image de Dieu, les êtres humains ne sont pas parfaits. On est tous déchus. On est tous imparfaits. Et ce n'est pas seulement les autres qui sont imparfaits, qui sont déchus. C'est moi aussi. C'est chacun de nous. Nous sommes des êtres imparfaits. C'est pour cela que Jésus nous a enseigné dans le Notre Père, dans Matthieu 6, le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous comme nous pardonnons. Nous reconnaissons l'humanité de mon prochain. Jésus va même aller plus loin que juste pardonner notre prochain, juste valoriser notre prochain. Il va nous dire d'aimer notre prochain, d'aimer notre prochain. Donc, pour commencer le processus de pardon, je dois réaliser la valeur de l'autre, voire même l'aimer, et ce, malgré ses imperfections. Je dois donc prendre le chemin de l'humilité pour entrer dans le chemin du pardon, de valoriser que l'autre être humain n'est pas parfait, mais que c'est une créature de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu, lui aussi, elle aussi. La deuxième étape, c'est abdiquer mon droit de vengeance. Dans Romains 12, les versets 17 à 19, on lit ceci. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, faisant référence à la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Lorsque je pardonne quelque chose, ce n'est pas que j'ai oublié l'offense qui m'a été faite. C'est normal de ressentir de la colère, un désir de vengeance envers quelqu'un qui m'a fait mal, d'avoir le goût de se venger. Sinon, je ne peux pas l'abdiquer. Le pardon, c'est abdiquer mon droit de vengeance. Mais avant, je dois goûter, je dois ressentir, je dois admettre les émotions que je peux ressentir, que ce soit la colère, que ça peut être la tristesse, d'avoir été victime de quelqu'un alors que je ne le méritais pas, et de sentir la tristesse, de ressentir la douleur. J'ai le droit à mes émotions lorsque j'ai été offensé. La clé, c'est de redonner ces émotions-là, de redonner cette colère-là, de redonner cet esprit de vengeance, la redonner à Dieu. Ce n'est pas de la nier. Parfois, on veut trop le faire rapidement. On dit, oh, on pardonne puis on passe à autre chose. Non, attends. J'ai vécu une injustice ici. Là. Il y a des émotions qui sont là. Alors, j'ai le droit des vivre en les redonnant à Dieu. Souvent, c'est par l'écriture qu'on peut le faire. D'écrire notre sentiment, notre valeur, notre colère, notre souffrance, notre peine, et de redonner à Dieu. Souvent, je vais suggérer à des gens qui viennent me voir en thérapie, je vais leur suggérer d'écrire et de brûler. Brûle ce que tu as écrit. Et lorsque tu vois la fumée qui monte au ciel, c'est comme si toute ta souffrance, ta douleur, ta rage, ta colère s'en va vers Dieu. Ce n'est pas un concept nouveau, ce n'est pas un concept nouveau de la psychologie moderne. Au contraire, quand je regarde le psaume 58, le verset 7, j'entends et je lis David qui dit « Oh Dieu », il parle de ses ennemis, « Oh Dieu, brise-leur les dents dans la bouche ». C'est quand même assez clair qu'est-ce qu'il est en train de dire. Hein? On sent sa colère, on sent sa rage, on sent sa vengeance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il la redonne à Dieu. Il la redonne à Dieu, ce désir, ce sentiment. Tu vois, le pardon, ce n'est pas un déni de ce que l'autre m'a fait. C'est pas ça, le pardon. C'est pas tourner la page, puis on ferme les yeux, puis il m'est pas arrivé une injustice, il m'est pas arrivé une souffrance. C'est pas ça, le pardon. J'admets ma douleur. J'admets l'injustice que j'ai vécue. J'admets les sentiments qui vont émerger. Mais je remets la personne qui me fait mal, ou les circonstances, je remets cette personne-là entre les mains de Dieu. C'est ce que Paul a dit aux Romains. Dieu va s'occuper de la personne. Dieu va faire justice. Dieu va faire rétribution. Comme David, il dit à Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Hein? Il dit à Dieu de s'en occuper. De remettre la personne qui m'a fait mal, qui m'a blessé, entre les mains de Dieu. Et de ce fait, lorsque je fais cela, j'évite la prison de la rancune. Tu sais, la rancune, c'est quand quelqu'un m'a blessé et que j'en veux à la personne. Et c'est comme si je prends la personne, je la mets dans un cachot et je m'assis devant la porte du cachot pour m'assurer que la personne ne sortira pas. Après un certain temps, il va y avoir une prise de conscience qui va émerger que si je suis devant la porte du cachot, ça veut dire que moi aussi, je suis en prison. Moi aussi, je reste en prison. Et la réalité, c'est que bien souvent, la personne qu'on pense garder dans un cachot continue de vivre sa vie librement. Le seul qui est en prison, c'est nous. Tu vois, quand je pardonne, ça m'évite de rentrer dans la prison. C'est comme si je m'assoyais devant la porte du cachot, la personne est là qui me fait mal, et c'est comme si je disais à Jésus, « Jésus, viens prendre ma place ici, là. Moi, je veux vivre ma vie. Viens prendre ma place. Toi, fais justice. Toi, prends la personne entre tes mains. Je peux te faire confiance que ta justice, elle est droite et elle est pure. Tu connais tout et tu as tout vu, ce qui m'a été fait. » L'amertume qui peut grandir suite à la rancune, hein? L'amertume qui vient corrompre toutes nos relations parfois autour de nous. L'amertume, c'est comme boire du poison et de penser que c'est la personne, l'autre personne qui va être malade, alors que c'est moi qui est en train de s'autodétruire. Donc, indépendamment si l'autre m'a demandé pardon ou pas, je suis pas une victime impuissante, mais je décide d'abdiquer mon droit de vengeance. J'aurai le droit de me venger, mais je choisis de l'abdiquer puis de le remettre entre les mains de Dieu et de relâcher l'emprise que l'autre a sur moi. C'est ça, le pardon. J'ai le droit de me venger, j'abdique mon droit et là, j'enlève toute l'autorité, toute l'emprise que l'autre personne a sur moi parce que je l'ai remis maintenant entre les mains de Jésus. Je n'ai pas besoin que l'autre me demande pardon pour faire ceci. Je choisis de pardonner. Avec l'aide de Dieu, je choisis de dire, « Seigneur, prends la personne qui me fait mal. Prends la personne qui m'a blessé. Prends la personne qui m'a abusé. Et qu'elle te rende des comptes pour ses comportements envers moi. Que cette personne n'ait plus d'emprise sur moi. Je veux sortir de la prison. Je veux sortir de la prison. » Tu sais, il y a des fois qui sont dans nos vies. Il y a des gens qui sont décédés aujourd'hui. Tu as besoin de les relâcher. Ils t'ont fait mal. C'est vrai, Dieu a vu. Tu as besoin de les relâcher aujourd'hui. C'est entre les mains de Dieu maintenant. Moi, je peux être libre. Je sais que sa justice va être bonne. Ce qui m'amène à la troisième étape. La troisième étape est celle de reconstruire la confiance. Reconstruire la confiance. Pardonner ne veut pas dire qu'on continue dans une relation abusive aveuglément. Ça ne veut pas dire parce que je t'ai pardonné qu'on continue comme si rien ne s'était passé. Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que j'ai besoin de réaliser que lorsque une injustice m'est faite, je peux te pardonner, mais j'ai perdu confiance en toi. C'est la confiance qui a besoin d'être reconstruite. Souvent, j'entends des couples qui viennent me voir Et j'entends un des deux couples, un des deux conjoints me dire ceci. Elle m'a dit qu'elle m'a pardonné, mais je te garantis qu'elle n'a pas oublié. Bien, tu vois, la réalité est, l'être humain n'a pas la capacité d'oublier. On n'a pas été créé pour oublier. Au contraire, on emmagasine souvenir après souvenir, mémoire après mémoire, événement après événement. Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre français, l'a écrit comme ceci. « Sans la mémoire des meurtrissures du passé, nous ne serions ni heureux ni malheureux, car l'instant serait notre tyran. » En d'autres mots, lorsque je perds souvenir de ce que j'ai vécu, je ne peux pas trouver le bonheur ni le malheur, parce que je suis sous le règne du tyrannique du présent. Si tu regardes des gens qui souffrent, par exemple, d'Alzheimer, on ne les cite pas comme exemple de pardon. C'est des gens qui souffrent parce qu'ils ont perdu la mémoire, souvent la mémoire à court terme. Pardonner, ce n'est pas oublier. Et j'ai besoin de réaliser que lorsque je pardonne, je remets la personne entre les mains de Dieu, mais maintenant, on a besoin, si la relation est pour continuer, on a besoin de rétablir la confiance parce que tu me fais mal. Et la première étape pour reconstruire la confiance, c'est que l'autre reconnaisse qu'il m'a fait mal. Si tu ne reconnais pas que tu m'as blessé, comment puis-je te faire confiance que tu ne le feras pas à nouveau? La première étape, c'est que tu vas admettre. Je te demande pardon, je t'ai blessé. Ça va être la première étape. Sinon, il pourrait recommencer. Et Dieu ne m'appelle pas juste à être persécuté et à souffrir et à souffrir et à souffrir à maintes reprises et dire, mais non, pardonne, non, pardonne, non, pardonne. Non, il faut que je rende l'autre personne redevable et de dire, l'autre personne a un rôle dans notre relation. Et là, il y a un effort de reconstruire la confiance qui doit prendre place. C'est comment savoir si la personne est vraiment intéressée à reconstruire la confiance avec moi? Je te propose les trois R. J'appelle ça les trois R de la repentance et c'est basé sur le psaume 51. Le premier R, c'est responsabilité. La personne prend responsabilité pour ses actions et ses gestes. Pas d'excuses, pas à cause de si, se justifier. Non, je t'ai blessé, je t'ai fait mal, j'en prends responsabilité. David a dit, j'ai péché contre toi, ô Dieu. J'ai péché. David ne met pas le blâme sur la femme, ce que Adam avait fait, hein, la femme que tu m'as donnée, Adam a dit à Dieu. À propos de Ève. David ne blâme pas les forces démoniaques, ne base pas les esprits méchants. Non, il prend responsabilité. Non, c'est moi, j'ai commis cet acte-là. Il prend responsabilité. Le deuxième R, c'est le regret. Et je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que je t'ai fait. Je regrette la blessure que je t'ai causée. Je la regrette. Mais ça n'arrête pas là. Parce que bien souvent, j'entends des gens de dire « Oui, je l'ai fait. Oui, je le regrette. Mais que veux-tu? Je suis fait comme ça. » Ce n'est pas de la vraie repentance. Parce que le troisième R d'une vraie repentance, c'est le rejet. Le rejet de l'action que j'ai faite envers toi. Je m'engage à faire les efforts nécessaires pour ne pas recommencer. David va le dire comme ceci dans le psaume 51. « Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » En d'autres mots, Dieu vient transformer, que je ne réplique plus le geste que j'ai fait, le péché que j'ai fait, la douleur que j'ai fait souffrir. Aide-moi à rejeter ce comportement-là. Aide-moi à rejeter. Et là, je suis face à de la vraie repentance. Là, on peut commencer à reconstruire une confiance. Et la confiance, elle se gagne dans les petites choses. Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, alors je te donnerai les grandes choses. C'est dans les petits détails que la confiance, elle se gagne. C'est comment j'agis avec les choses des autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un qui vous raconte toutes sortes de choses que quelqu'un lui a confiées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas le goût de me confier à cette personne-là. Ben, je vois que la façon qu'elle traite l'information qu'elle a de quelqu'un d'autre, elle va faire la même chose avec mes informations que je vais lui confier. Que les gens marchent dignes de confiance quand ils pensent que personne ne les voit. C'est comme ça qu'on regagne la confiance. On regagne la confiance avec les actions qui confirment mes paroles. Ce n'est pas juste les paroles qui sont prononcées, mais c'est mes actions qui viennent. Le fruit, comme Jésus a dit, hein, c'est avec le fruit que tu vas connaître l'arbre. Pas juste les paroles, je n'ai pas juste prononcé des belles paroles, mes actions suivent et soutiennent mon engagement. Donc, le pardon, ce n'est pas d'oublier le passé, et le pardon n'est pas l'équivalent de la confiance. Et c'est pour ça que quand j'abdique mon droit de vengeance, il va falloir du temps, il va falloir des efforts pour explorer la possibilité de restaurer la relation, de reconstruire la relation. Tu sais, bien souvent, je donne l'exemple suivant. Si je te donne un coup de couteau dans la jambe et qu'après mon geste, je me rends compte de l'impulsivité de mon geste et que je te dis, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'en prends responsabilité, là, c'est moi qui l'ai fait. Je le regrette énormément et je vais faire tous les efforts pour ne pas te redonner un coup de couteau dans la jambe. Tu pourras, hein, avec un élan de foi, dire « Oui, Daniel, je te pardonne. » Mais il va y avoir deux choses. La première chose, c'est que tu vas être très nerveux si j'ai encore un couteau proche de moi. Parce que la confiance, elle n'y est pas là. J'ai besoin de regagner ta confiance. Ça va prendre du temps pour regagner ta confiance. Mais la deuxième chose, c'est que même si tu me pardonnes sur le moment, tu vas sortir en boitant de mon bureau. Tu vas sortir, tu vas avoir encore mal, parce que la plaie va être encore là. Ce n'est pas que je ne t'ai pas, tu ne m'as pas pardonné. Tu m'as pardonné, mais tu es encore mal. C'est encore douloureux pour toi. Et j'ai besoin d'accorder le temps pour guérir, l'effort de guérir et mes efforts de reconstruire une relation. Et ensuite, la quatrième étape, c'est celle de regarder vers le futur. De regarder vers le futur. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans Philippiens. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » La réalité est, si je veux marcher dans les voies du pardon, il y a un moment où je dois me tourner vers le futur. Quand j'ai reconnu l'humanité de l'autre, sa valeur en tant qu'humain, qui n'est pas parfait, et que je me suis dégagé de mes émotions, je me suis dégagé de mes sentiments de colère, de vengeance, de tristesse, de douleur, et que j'ai abdiqué ce droit de vengeance, je dois me tourner vers le futur maintenant. Ce n'est pas que j'ai oublié mon passé, je ne l'ai pas oublié mon passé, mais je choisis de regarder vers demain. Mon passé, il est là. Je vois les impacts encore sur moi aujourd'hui, les blessures, les cicatrices. Mais je choisis avec l'aide de Dieu de regarder vers demain. Et c'est ici que parfois, on doit faire le deuil de certaines relations parce qu'il n'y a pas eu d'effort ou d'admission de l'autre côté. Je peux te pardonner, mais s'il n'y a pas d'effort de ton côté, s'il n'y a pas ce désir de dire « Daniel, je veux restaurer ma relation avec toi », il y a possibilité que j'ai besoin de faire le deuil de cette relation-là, qu'on ne pourra pas être en relation. Ça ne veut pas dire que je te veux du mal, ça ne veut pas dire que je ne t'ai pas pardonné, ça veut simplement dire que j'ai choisi de me protéger. Jésus nous a enseigné d'aimer son prochain comme soi-même. Et il arrive un temps où j'ai le droit de me protéger parce que tu n'as pas fait ta part. Et là, parfois, il faut que je fasse le deuil d'une relation quand je regarde en avant. Mais aussi qu'il faut reconstruire la confiance, des efforts, les relations qui vont demeurer. Si je regarde vers l'avant, j'ai besoin d'avancer et d'aller dans l'effort de reconstruire la confiance dans ma relation. Mais je choisis, avec l'aide de Dieu et la confiance en sa justice, de ne plus vivre dans le passé. C'est un choix qui est difficile, qui est tellement difficile, qui n'est pas humain. J'ai besoin de l'aide de Dieu parce que c'est une étape de confiance en Dieu. De remettre la personne qui m'a fait tellement mal, l'injustice que j'ai vécue, et de me souvenir, Seigneur, toi, tu as tout vu. Tu l'as vu, toi. Tu as vu l'injustice qu'on m'a fait vivre. Et je vais te faire confiance dans ta justice, dans ta droiture, mais dans ta grâce aussi. Tu vas rendre les gens redevables devant toi. Moi, je veux être libre. Aide-moi à regarder vers le futur. Aide-moi à me détourner de mon passé pour regarder vers le futur. Je comprends l'impact du passé sur ma vie, mais je choisis de regarder vers le futur, d'aller de l'avant. Pourquoi? Pour être libre. Pour être libre de la prison du passé, de marcher dans la vie en abondance que Jésus me promet. Encore une fois, le psychiatre français Boris Cyrulnik a dit ceci. On ne devient pas normal impunément quand le fracas nous contraint à la métamorphose. Alors on se tricote une résilience et le blessé de l'âme, ni acier ni surhomme, transforme sa souffrance en œuvre d'art. Il transforme sa souffrance en œuvre d'art parce qu'il a été blessé dans son passé. Il y a plusieurs années de cela, Nelson Mandela, après avoir vécu plus de 25 ans en prison, et non seulement, c'était presque 27 ans en tout, là, non seulement il était en prison, mais il était en travaux forcés. On lui a imposé des travaux forcés. Et c'était la raison de sa culpabilité, c'était des raisons politiques, c'était des raisons raciales. C'était d'une grande injustice. Et pendant plus de 25 ans, Nelson Mandela va être emprisonné injustement. Et le jour de sa libération, le jour où il s'apprête à quitter la prison, voici ce qu'il a dit. « Alors que je me tiens devant la porte de ma liberté, je réalise que si je ne laisse pas ma souffrance, ma colère et mon amertume derrière moi, je serai encore en prison. » Je serai encore en prison. Nelson Mandela avait réalisé qu'il devait laisser des choses derrière lui, les injustices qu'il avait vécues, les remettre entre les mains de Dieu. Et Nelson Mandela va faire une étape de plus. Il va mettre sur pied la commission de la vérité et de la réconciliation dans le pays lorsqu'il va être élu comme président de l'Afrique du Sud. Et alors qu'il est élu, il met en place la commission de réconciliation et de vérité, où les gens ont le droit, c'est des salles où on vient et on confesse nos manquements, on confesse ce qu'on a fait pour être réconciliés, les Blancs avec les Noirs. Et de ce fait, Nelson Mandela, à cause du chemin du pardon, a empêché une guerre civile d'éclater en Afrique du Sud. Et il a ramené la réconciliation dans un pays qui était terriblement divisé. Pourquoi? Parce que Nelson Mandela avait choisi de sortir de sa prison. Il ne voulait pas rester dans sa prison de colère, dans sa prison d'amertume, dans sa prison de rancune. Il a choisi de sortir de sa prison. Tu vois, le pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Le pardon, c'est une action qui nous libère. C'est d'une grande noblesse, c'est d'un grand effort, mais c'est de choisir la liberté. Es-tu en prison ce matin? Es-tu en prison ce matin? Prison d'amertume et de rancune parce qu'on t'a terriblement fait mal. Prison de colère, peut-être même d'un souhait de vengeance dû à la douleur, à l'injustice que tu as souffert. Je t'invite au pardon ce matin. Je sais combien c'est difficile. Je sais combien c'est contraire à toute notre nature humaine. Je le sais. Mais demande l'aide de Dieu pour t'aider à pardonner ceux qui t'ont offensé. Demande-lui cette aide. Donne-lui ta colère. Donne-lui tes sentiments. Donne-lui ta peine. Donne-lui ta rage. Donne-lui ta douleur. Donne-lui. Et abdique ton droit de te venger. Remets la personne entre ses mains. La personne qui te fait mal, remets-la entre ses mains. Et vois s'il est possible ou non de reconstruire une relation. Peut-être que c'est possible, peut-être que ça ne l'est pas. Mais de remettre la personne entre les mains, d'abdiquer ton droit de vengeance. Et sors de ta prison pour être libre. Sors de ta prison pour être libéré. Et contrairement à ce que Boris Cyrulnik a dit, que c'est nous qui allons créer une œuvre d'art à travers nos souffrances, j'aimerais te suggérer de laisser Dieu transformer ta souffrance en une œuvre d'art. De laisser Dieu prendre toute ta souffrance, toute ta colère, toute ta peine, toute ta douleur et de la transformer comme lui seul peut le faire pour créer une œuvre d'art dans ta vie. Une œuvre d'art qui va glorifier qui il est, qu'il en recevra toute la gloire et toute l'honneur. Sors de prison aujourd'hui. Demande-lui son aide. Il est là pour t'aider à pardonner, à laisser aller. Pas que ce n'est pas arrivé, pas de nier les justices que tu as vécues, mais de remettre entre les mains de Dieu. Si tu me permets, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute aujourd'hui. tous ceux qui écouteront en ligne plus tard. Seigneur, tu vois qu'il y a des gens là, qui ont beaucoup, beaucoup de souffrance, ils ont des douleurs, ils ont vécu des injustices, des abus, des choses tellement douloureuses. Et Seigneur, ce message est dur pour eux, parce que tu les appelles au pardon. Et Seigneur, parfois on a l'impression, lorsqu'on pardonne la personne qui nous a fait mal, c'est comme si l'autre personne avait gagné. Parce qu'on n'a pas eu cette soif, notre soif de justice n'a pas été rencontrée. Mais Seigneur, je te prie que tu nous éclaires par ton Esprit Saint de voir que lorsque je pardonne quelqu'un, je ne suis pas en train de nier ce que la personne me fait. Je ne suis pas en train de dire que la personne n'est pas coupable de ce qu'elle me fait. Je suis simplement en train de dire, Seigneur, je remets la personne entre tes mains et ta justice pour que je puisse sortir de la prison, de l'amertume et de la rancune. Seigneur, donne-nous discernement à tourner la page et à regarder vers l'avant et de voir est-ce que la relation peut continuer parce qu'il y a un effort de l'autre côté pour rétablir la relation ou est-ce que je dois faire le deuil d'une relation. Donne-moi ce discernement. Et Seigneur, je te prie que tu puisses te glorifier dans nos vies à travers nos blessures, à travers nos souffrances. Que Seigneur, tu vas nous tricoter une résilience à l'épreuve. Mais surtout, tu vas créer une œuvre d'art qui saura te glorifier autour de nous. C'est dans ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Amen et amen.